Retrouvez Dear Well People tous les jeudis à midi 10 et 18h10 sur les ondes de Radio Femme Plus, la radio où la différence nous rassemble. Bonjour à tous, chers auditeurs, sur ce nouvel épisode de Dear Well People, l'émission de radio qui parle de handicap sans tabou, sans cliché. Aujourd'hui, un nouveau mois commence et au lieu d'entamer une thématique précise, nous allons revoir des thématiques déjà vues dans Dear Well People durant cette seconde saison ou pendant la saison dernière. C'est le cas de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons parler voyage avec Éléonore Verne. Comment vas-tu, Éléonore ?
Ben, enchantée. Ça va très bien. Écoute, ça va très bien.
Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ?
Eh bien, donc, moi, j'étais déjà venue dans une émission il y a quelques mois dans le cadre du chapitre sur les relations, mais si jamais vous ne l'aviez pas écouté, j'ai 27 ans. Je suis journaliste et je travaille pour un quotidien régional dans la région lyonnaise, donc vous pourrez peut-être deviner lequel. Et j'ai donc un handicap moteur qui fait que je me déplace en fauteuil et en béquille. Et effectivement, le voyage, ça fait vraiment partie de ma vie, puisque c'est pas prendre des vacances, mais c'est vraiment devenu un besoin, en fait.
Explique-nous d'où est venue cette envie de voyager.
Alors, je dirais que, en fait, j'ai toujours eu envie de voyager, de découvrir, d'aller voir des choses différentes de ce que je connaissais dans mon petit pays qu'est la France. Et l'élément déclencheur, je dirais que ça a été mon année d'Erasmus, en fait. J'ai fait mon master 1 de sciences politiques à Grenade, donc dans le sud de l'Espagne. Et là, j'ai commencé par faire des voyages organisés, puisque quand on est en Erasmus, on a l'occasion de beaucoup aller crapahuter à droite, à gauche. Et puis, sur la fin de l'année, j'avais quand même envie d'aller faire un tour à Madrid, qui était donc à 4 heures de Grenade en bus. Et j'avais demandé à des amis s'ils étaient intéressés. Ça intéressait tout le temps des gens, mais il y avait toujours le problème de là, j'ai pas le temps, ou là, j'ai pas les sous, ou là, ça va pas être possible. Et donc, j'en ai un petit peu eu marre d'attendre et je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas seule, en fait ? Et c'était un petit peu un challenge parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait, donc il fallait l'organiser, je me suis demandé est-ce que je vais y arriver simplement en fait, à gérer le fait d'avoir le fauteuil et de m'amuser, parce que pendant un voyage c'est quand même le but, c'est de pas penser seulement à la logistique. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai pris un sac à dos qu'on m'a prêté et puis je suis partie, donc trois jours à Madrid, donc c'était pas un gros périple, bon, sachant qu'après je l'ai poursuivi par 4 jours, mais chez une amie que je retrouvais. Et en fait, ça s'est passé du mieux que ça aurait pu se passer, je pense. Dans le sens où j'ai pas eu de soucis en termes d'accessibilité, parce qu'en plus l'Espagne est un pays... ils sont très en avance et j'ai pas été seule. Je pense que sur 3 jours, j'ai dû être seule peut-être 5 minutes. Donc au final, j'ai fait des super rencontres et à partir de là, ça s'est développé. Quand on commence de la meilleure des façons, il est difficile de se dire qu'on va s'arrêter.
Je comprends totalement. Donc, les voyages organisés, c'est vrai que c'est une certaine forme de confort, mais c'est aussi une obligation de se restreindre aux autres personnes, à ce qu'ils veulent. Et finalement, de voyager seul, certes, c'est un challenge, c'est un défi, mais c'est très gratifiant, je pense, d'y parvenir. Et c'est une forme d'excitation aussi. On a à la fois peur, c'est l'inconnu, mais en même temps, c'est très attirant aussi. Et de ce que j'ai compris, ça ne s'est pas arrêté à Madrid.
Ah non, après l'Espagne, je suis partie seule au Portugal, je suis partie seule en Croatie, je suis partie seule Je sais que je suis partie encore, je suis partie à New York, je suis partie au Canada, je suis partie au Japon, je suis partie... voilà, donc je pourrais faire une liste qui serait assez longue, mais après je voyage pas toujours seule, mais c'est vrai que ce que je cherche en fait quand je décide de partir seule, puisque c'est un vrai choix, c'est justement la rencontre avec l'autre. C'est, c'est déjà le côté challenge de justement gérer le fait d'être seule avec un handicap et puis d'être seule avec soi aussi, puisqu'en fait on se retrouve quand on part seul. Et puis le fait que voilà, quand on est seul, on est beaucoup plus ouvert à l'autre. Et donc en fait on fait des rencontres qui sont très enrichissantes. Quand on est avec son groupe d'amis, on a prévu nos activités et puis on est un peu sur notre programme et on reste avec ses amis, c'est naturel. Quand on est seul, on a un programme, mais si on fait une rencontre un soir au bar de l'auberge jeunesse et que la personne elle dit moi demain je vais là, est-ce que tu veux venir? Et on lui dit écoute avec plaisir parce que ça a l'air sympa et donc ça permet de mettre un petit peu de piment dans le voyage et dans de l'inconnu. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que quand on a un handicap, il faut quand même beaucoup organiser. Et donc, le voyage seul permet aussi de se détacher de cette organisation.
Je pense que voyager seul aussi, qu'on soit en situation d'handicap ou non, c'est une forme de dépassement de soi. Et dans le cadre du handicap, c'est aussi un dépassement du handicap, il me semble. Donc, c'est totalement important. Tu parlais d'organisation, parlons-en. Comment on organise un voyage en situation d'handicap? Dans ton cas, de quoi as-tu besoin?
Alors, je dirais que le secret de l'organisation d'un voyage handicap ou pas, en fait, c'est l'anticipation, vraiment. Et l'handicap fait que cette anticipation est décuplée. Dans le sens où il faut déjà penser à un itinéraire qui soit faisable. Donc, c'est-à-dire réfléchir à « je veux d'abord aller dans cette ville, puis dans celle-là, puis dans celle-là » et regarder les trajets en bus, s'ils sont faisables, c'est-à-dire qu'on a bien accès au bus. Regarder que les temps ne soient pas trop longs pour que ce ne soit pas exténuant et qu'au final, quand on arrive, on n'a même plus la force de faire quoi que ce soit. Ensuite, regarder au niveau des hôtels ou des auberges qu'elles soient bien accessibles aussi. Alors après, effectivement, ça dépend des besoins qu'on a. Moi, je sais que j'ai besoin d'un ascenseur et d'une douche plutôt que d'une baignoire et ça se limite relativement à ça. Donc, j'ai la chance d'avoir accès à beaucoup d'endroits parce que même s'ils ne sont pas PMR, c'est pas gênant, voilà. Mais pensez déjà à l'itinéraire de base, puis pensez aux hôtels. Et puis, il y a aussi le fait que plus on part loin, plus on doit utiliser l'avion. Et ça, pareil, il va falloir demander l'assistance à la compagnie aérienne, vérifier que le fauteuil peut bien passer en soute et qu'on ne risque pas de l'abîmer. Voilà. Sachant que moi, j'ai fait un choix sur mon mode de déplacement, c'est-à-dire que j'ai un fauteuil qui est un fauteuil manuel sur lequel il y a une motorisation qui est donc amovible et qui passe en avion. C'est-à-dire que la batterie est au lithium et donc peut rester avec moi en cabine, ce qui permet d'avoir le contrôle sur ce qui se passe avec son matériel. C'est-à-dire que je ne le donne pas à quelqu'un qui va faire je ne sais quoi avec et potentiellement me le perdre. Donc voilà, j'essaie d'avoir le contrôle en fait sur toutes les choses qui pourraient poser problème pour être la plus sereine possible. Voilà.
Nous avions vu les besoins lorsque l'on prend l'avion en fauteuil roulant, cher auditoris, avec l'association Andy Lol que nous avions eu l'occasion d'interviewer lors de la première saison de Dear People Tu as parlé d'organisation, anticipation, garder une forme de contrôle. Est-ce que sur place, au niveau des activités, est-ce que tu gardes ce contrôle ou te permets-tu une certaine liberté ?
Là, je dirais, oui, je garde un certain contrôle, mais non. En même temps, puisque je vais regarder les activités et faire attention un minimum à leur accessibilité, certes. Donc, quand je prépare mon voyage, bah, je vais justement consulter le site d'Andilol. Ça m'arrive de tomber dessus s'ils ont fait la destination. Je regarde beaucoup le routard, alors que ce soit pour l'accessibilité ou que ce soit pour les questions de base du voyage, parce que c'est vrai que le routard a une petite partie sur l'accessibilité, mais qui n'est pas encore très développée. Donc parfois on a des infos et puis parfois on n'en a pas. Mais voilà, j'essaie un petit peu de regarder, mais je laisse de la place à l'imprévu pour que ce que je disais plus tôt, quand on fait une rencontre sympathique avec quelqu'un au bar de l'auberge de jeunesse, et ben si on propose de partir faire une excursion en bateau à l'autre bout de la ville ou sur une île, et ben je vais laisser la place à l'imprévu et dire et ben si tu m'aides, avec grand plaisir.
Et finalement, on est content d'être seul, mais on est content aussi de rencontrer des gens sur notre chemin pour nous aider, et aussi l'aide est une forme d'attachement social qui est assez gratifiant dans Sardaga quand c'est fait dans le respect. Et ça, nous l'avons déjà vu lors des épisodes sur la relation où ça peut être difficile de trouver le juste équilibre entre totalement aider, être envahissant et être totalement absent. Il est l'heure de notre pause musicale habituelle, chers auditeurs. Aujourd'hui, Eleonore nous propose le titre Magnétismo du groupe La Diegros. Bonne écoute, on vous retrouve juste après.
Donde todos temen, como dijo King Kosha, cada día que empieza, cada día de cero. Yo aguanto el remesón sin miedo. El mundo sin sus sueños, la verdad termina. No existe un mañana, solo esta vida. Bella vida y magnetismo. Pide lo que quieras que yo haré lo mismo. Nada por hacer, solo amanecer. Deja que no se vea olvidar el viento. Nada por hacer, solo amanecer. Por una vez déjalo correr. Nada por hacer, solo amanecer. Deja que no se vea olvidar el viento. Nada por hacer, solo amanecer. Por una vez déjalo correr. Nada por hacer, solo amanecer. Deja que no se vea olvidar el viento. Nada por hacer, solo amanecer. Por una vez déjalo correr. Nada por hacer, solo amanecer. Deja que no se vea olvidar el viento. Nada por hacer, solo amanecer. Por una vez déjalo correr.
Dear Valley People, vous êtes de retour sur les ondes Radio FM Plus pour ce nouvel épisode sur les voyages en compagnie d'Éléonore Verne. Ça va toujours, Éléonore ?
Toujours là.
Juste avant la pause, nous parlons un petit peu des interactions sociales que le fauteuil nous permettait, notamment via la demande d'aide, parce que malheureusement, tout... les lieux sur la planète ne sont pas accessibles, donc nous sommes forcés de parler aux gens, mais finalement c'est un avantage. Mais est-ce qu'il y aurait deux avantages, Léonard ?
Alors moi je dirais que tu as formulé ça comme une demande d'aide. Et en fait, je demande pas d'aide. On me la donne. C'est très rare que je sois obligée, quand je voyage, de dire « Est-ce que vous pourriez m'aider pour faire ça ?» C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression que... quand je me retrouve dans une situation un peu complexe, quelle qu'elle soit, eh ben, y a quelqu'un qui va arriver et qui va me dire « je t'aide, en fait ». Et ça tombe au moment opportun, dans le sens où c'est pas malaisant, c'est pas un moment où j'avais pas besoin. Et c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'étranger, ça. Parce qu'en France, c'est assez fréquent d'avoir quelqu'un qui... tu te débrouilles très bien et puis on vient te voir et on te dit « Vous avez besoin d'aide ?» Sur ce ton-là, en plus. Hein. Et non, la réponse est non. Et on répond non, c'est gentil. Et en voyage, en fait, j'ai vraiment l'impression que voilà, l'aide vient quand j'en ai besoin et que je ne me sens pas oppressée par cette aide-là. Et c'est vrai que ça fait aussi ressortir les différences culturelles et le fait que, à l'étranger, les gens sont beaucoup plus ouverts à l'autre et peut-être un petit peu moins individualistes que dans notre pays. Voilà. Et donc voilà. Mais après, je dirais qu'effectivement, le fauteuil permet des rencontres. Voilà, parce que les gens vont justement se dire tiens, je vais l'aider, et puis au final on va au même endroit, donc on va visiter un musée ensemble et c'est sympa. Et typiquement, j'ai fait une rencontre particulièrement chouette à Budapest où j'étais devant la basilique de Budapest et il y avait quand même beaucoup de monde. Et un monsieur qui avait l'air gentil vient me voir et me dit « Est-ce que tu veux que je t'aide à traverser la place ?» Voilà, c'était pas « Est-ce que tu as besoin d'aide ?» C'était « Est-ce que tu veux que je t'aide à traverser la place ?» Donc c'était la demande dont j'avais besoin sur ce moment-là. C'est ce que je disais juste avant. Et je lui dis « écoute, avec plaisir. » Et au final, je lui explique que je veux donc visiter la basilique et pour la découvrir. Et donc, il me dit, je le fais avec toi. Et au final, ce monsieur-là, il se trouve que le lendemain, il m'a proposé de me faire découvrir sa ville. Donc, en me donnant plein de conseils et en me faisant visiter plein d'endroits que je pense que j'aurais jamais eu l'occasion de découvrir sinon. Parce que c'était pas des endroits dans les guides, c'était pas des endroits que j'avais pu... anticiper ou me dire tiens j'irai voir ça. Et donc c'est vrai que le fauteuil est aussi un permet de plus de découvertes. Et pour ce qui est des autres avantages, oui, il y en a. Puisque les tarifs réduits, qui sont quand même fréquents. Et si je dois donner un exemple, je prendrai Florence et ses musées. Puisque Florence est une ville qui est remplie de musées, littéralement, où l'entrée d'un musée est de 20 euros minimum. Et les personnes handicapées, eh ben, elles ne paient pas. Et leur accompagnateur non plus. Donc au lieu de faire un musée ou deux, le temps de, voilà, de prévoir, ben, je les ai tous faits.
Et au final, les musées de Florence sont-ils accessibles malgré cette gratuité? Puisqu'on peut se poser cette question. Gratuit, certes, mais finalement, sont-ils accessibles et faciles à visiter pour tout le monde finalement?
Alors, laisse-moi me rappeler. Je dirais que les musées de Florence sont globalement assez accessibles, c'est-à-dire qu'on va quand même trouver une rampe sur un côté, on va trouver des entrées voilà, un petit peu dédiées avec un personnel qui va t'accompagner pour trouver ces entrées-là. Après, Florence est une ville avec des pavés, donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu plus complexe. Mais globalement, je dirais que je ne me suis pas sentie bloquée dans cette ville. Ce n'est pas le souvenir que j'en ai. Mais il faut noter aussi que voilà, moi, je me déplace donc, en fauteuil, mais j'ai aussi la capacité de marcher, donc je peux très bien me lever, prendre mes béquilles, laisser le fauteuil en bas à un garde ou quelqu'un de la sécurité, où je lui demande gentiment de veiller dessus le temps que je fasse ma visite, parce qu'il faut quand même faire attention à son moyen de déplacement. Et voilà, je visite l'endroit debout avec mes deux cannes et ça se fait. Et puis en plus, voilà, comme ce que je disais avant, et ben à l'intérieur, je rencontrerai des gens qui me diront bon bah là, est-ce que tu veux que je t'aide à monter la marche, ou qui vont m'aider à monter la marche de base parce qu'ils voient que j'ai besoin de monter la marche. Donc voilà, j'ai pas un souvenir d'avoir été bloquée. C'est pas le cas de certaines villes où vraiment c'était quand même assez compliqué, du style. La République tchèque, j'ai un souvenir de galère d'accessibilité au possible. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu gâché le voyage. Mais pour Florence, c'est pas ce que j'en retiens.
Comme tu disais, l'accessibilité, ce n'est pas uniquement la question des marches ou de la structure. Ça peut être aussi une question de formation du personnel. Ou dès que le personnel est formé au handicap et c'est ce qu'il faut faire et comment réagir en fonction des différentes situations. De suite, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Je me rappelle d'une anecdote, pas forcément en voyage, mais ici à Montpellier, où pour un magasin de glace qui n'était pas accessible en fauteuil roulant, la salariée venait vers nous pour prendre notre commande et finalement apporter une commande directement sur l'extérieur. Et ça paraît très simple et peut-être insignifiant, mais en fait, c'est ces petits détails qui changent totalement tout. Pour revenir un petit peu plus à ta manière de voyager, avec quoi tu voyages, tu as parlé de ton fauteuil, tu as besoin d'un fauteuil léger, pratique, qui puisse passer en avion, avec cette problématique de batterie à avoir en tête. Il me semble que tu as besoin d'un autre accessoire obligatoire. Est-ce que tu pourrais un peu plus nous en parler?
Bah effectivement, et c'est un accessoire dont tous les voyageurs ont besoin. On va parler du sac à dos. Ben oui, puisque donc je voyage avec un sac à dos et pas avec une valise. Et il y a aussi une question d'accessibilité, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai un sac à dos qui me suit depuis 5 ans et qu'il faut dire fait un petit peu partie de moi, et que j'ai choisi en fait en fonction de mon fauteuil, et puisque c'est lui qui le porte en fait. Donc les gens, c'est vrai qu'ils vont se dire bah, je vais prendre un sac qui s'adapte à mon dos, à ma morphologie, pour que je puisse le porter. Bah, moi, je me suis dit on va l'adapter au fauteuil et à sa morphologie pour qu'il puisse le porter. Donc il fait 40 litres et voilà, que je parte une semaine, deux semaines ou trois semaines, je suis limitée entre guillemets à ce sac, puisque bah, il est vraiment ajusté au fauteuil, c'est-à-dire qu'il est plus long que large. Voilà, ce qui permet de rentrer dans l'intervalle du dossier et il est pas trop long pour ne pas toucher les roues et pas trop petit pour que je puisse quand même mettre suffisamment d'affaires. Et ça apprend aussi finalement à faire un sac à dos, c'est-à-dire que bah il y a plus de au cas où. Voilà, au cas où je vais prendre ça, au cas où je vais prendre ça pour mon voyage, c'est j'ai besoin de ça, je le prends. Et ça, je ne le prends pas, puisque de toute façon, il me faut de la place dans le sac. Et il ne faut pas qu'il soit trop lourd, puisque sinon, le fauteuil bascule et ça peut provoquer quelques soucis.
Il me semble que vous n'êtes pas la personne la plus lourde du monde, donc c'est très facile que ton fauteuil bascule. Pourquoi je te vous vois, je ne sais pas, je suis perdu. Tu as parlé du sac à dos, comme pour tout voyageur, il me semble que, comme pour tout voyageur, il y a d'autres éléments à prendre en compte, notamment l'argent, peut-être, la monnaie. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ne pas oublier ?
Ben oui, parce qu'en fait, on parle de voyage et d'handicap, mais le voyage, avant tout, il faut penser à pas mal de choses, handicap ou pas. Et donc, ben moi, je dirais que pour l'argent, la base, c'est de penser à la carte de crédit. Et je dirais que même le mieux, c'est d'en avoir deux. Voilà, parce que si jamais on en perd une, eh ben on n'est pas complètement coincé à se dire « je ne peux plus retirer d'argent ». Le mieux, c'est d'avoir une Visa et une Mastercard, puisqu'il y a certains distributeurs qui ne prennent pas les Mastercard et d'autres qui ne prennent pas les Visas. Bon, le problème se présente plus pour les Mastercard, mais voilà, avoir une Visa et une Mastercard permet d'avoir plus de liberté. Et puis bien sûr, il ne faut pas mettre ces deux cartes de crédit au même endroit, hein. Voilà, parce que si on en perd une et que l'autre est au même endroit, ça perd tout l'intérêt. Mais voilà, et puis en plus de ça, bah, il faut peut-être penser aussi, bah, bien sûr, au passeport, au visa, à l'accès à Internet aussi. Typiquement, ça, voilà, quand on part dans un pays et si on se retrouve sans Internet, surtout quand on est seul, bah, c'est un petit peu gênant. Donc moi, je sais que je réfléchis toujours à comment avoir accès à Internet sans dépendre de la Wi-Fi, puisque moi, je sais que j'utilise beaucoup le GPS pour me repérer, pour savoir où je vais et pour ne pas avoir à tout le temps chercher et à tout le temps me poser la question de par quelle rue va falloir passer. Non. Donc je pense aussi à ça, même si c'est vrai que quand on est perdu, ça permet de demander son chemin et donc rencontrer des gens. Donc c'est selon. Des fois, on peut faire exprès de se perdre. Mais voilà, moi je dirais que penser aux cartes de crédit, penser à l'Internet, penser aux visas, je dirais que c'est les choses basiques. Après, évidemment, il faut aussi penser à qu'est-ce qu'on met dans son sac à dos et quels sont les indispensables. Typiquement, un adaptateur de prise.
Voilà. En effet, suivant les pays, toutes les prises ne sont pas les mêmes qu'en France. Bien que certains Français croient que la France est le centre du monde, mais ce n'est pas le cas. Et les indispensables sont peut-être les plus difficiles à penser puisque les plus simples. Tu veux rajouter quelque chose, Eleonore ?
Oui, par rapport aux prises. Quand on veut charger son fauteuil électrique, il faut aussi vérifier que le voltage du fauteuil corresponde à la prise en question.
Sinon,
ça permet d'éviter de cramer la batterie.
Ça serait dommage de se retrouver avec une batterie cramée dans un pays étranger. Cher auditoris, il est l'heure de terminer cette émission. Eleonore, le mot de la fin.
Eh ben, je dirais qu'il faut oser, il faut se lancer et anticiper. Voilà. Le voyage, pour moi, ça permet de se connaître, ça permet de connaître ses capacités, de se dépasser, puisque c'est un challenge qui est complètement grisant. Et si vous êtes ouvert aux autres, et ben les rencontres, elles viendront et ça sera une expérience qui sera, j'en doute pas, magnifique.
Vous avez compris, chers auditeurs, allez-y, c'est que du bonheur. Merci, Léonore Verne, d'être venue parmi nous pour partager tes expériences du voyage.
Avec grand plaisir.
C'était Dear Valley People, chers auditeurs. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Suivez Dear Valley People sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commenter, poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre.